Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a comme une impression de courant d'air à la Maison Blanche, c'est que la porte de sortie est manifestement ouverte en permanence, à tel point qu'il est devenu difficile, 14 mois après l'arrivée de Donald Trump aux affaires, de compter le nombre de conseillers, membres du gouvernement et autres aux responsables qui sont partis, soit de leur propre initiative, soit de celle du président, spécialiste de longue date du limogeage express. Cela vaut pour tous les domaines, économie, sécurité, affaires étrangères, communication. Il semble que ce soit un vrai défi de faire partie plus de quelques mois de l'administration américaine. Qui peut travailler avec Donald Trump? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Jean-Éric Brana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, chercheur à l'IRIS et auteur du livre à sortir, à paraître fin avril aux éditions Priva, « Quand l'Amérique gronde, 1968-2018 ». Et Philippe Golub, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de relations internationales à l'université américaine de Paris et collaborateur du monde diplomatique. Et vous êtes l'auteur d'une autre histoire de la puissance américaine, c'est aux éditions du Seuil. Le dernier changement en date, c'était la semaine dernière. John Bolton remplaçait son conseiller à la sécurité nationale, Herbert McMaster, Donald Trump remplaçait son conseiller à la sécurité nationale, Herbert McMaster, par le néoconservateur John Bolton. C'était moins d'une semaine après le remplacement du secrétaire d'État, là aussi par un dur. Ce turnover, pour employer un mot américain, est-il exceptionnel ou normal au bout d'un an? Philippe Golub.
On n'est pas dans la normalité, bien évidemment. On est là dans un processus de renouvellement très rapide, dicté par la caractéristique particulière du président, de ses idiosyncrasies personnelles. Mais il y a quand même, je crois qu'il faut le souligner, il y a de la méthode dans la folie, there's method in the madness, dans le sens qu'il est en train peu à peu de s'entourer d'une équipe qui lui ressemble et qui va dans le sens de ses convictions et de ses pulsions, à la fois idéologique et personnel, dans le sens que il a un cabinet resserré maintenant à la fois de praticiens du pouvoir. Bolton est un praticien du pouvoir, ce n'est pas simplement un idéologue, et d'idéologues qui convergent avec Trump sur les grands objectifs à la fois internes et externes pour les États-Unis. Et donc on est dans un resserrement de son équipe autour d'objectifs stratégiques, me semble-t-il, plus concentrés et plus précis. Et donc il y a de la cohérence dans cette somme de mouvement permanent au sein de la Maison Blanche.
Jean-Éric Brana, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on est en train de se concentrer, comme le disait Philippe Golub, par rapport à une période post-électorale où on récompensait un peu tout le monde? Enfin, est-ce qu'on est dans quelque chose comme ça?
Ah oui, je suis vraiment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Vous savez, au bout d'un an, c'est à peu près normal, un an, 15 mois, enfin, sur cette période en tout cas, que les présidents changent une partie de leur équipe, c'est technique, ça se fait régulièrement. Avec Barack Obama, on a eu effectivement des grands départs au bout de 15 mois. Je me souviens d'un Emmanuel qui partait, qui était pourtant un très proche de Barack Obama, qui est devenu maire de Chicago. Mais ce qu'on n'a pas eu, c'est effectivement un turnover aussi rapide, aussi fréquent et effectivement un resserrement, puisque c'est quand même ce qui nous frappe. Toutes les avancées qui avaient été faites par les républicains mainstream establishment après l'élection de Trump, en plaçant certains auprès de lui de façon plus ou moins tactique dans le cadre de cette discussion qui s'était faite, ont sauté. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, on a des conservateurs vraiment très affirmés qui sont autour de Trump. Donc une ligne vraiment très cohérente, je reprends aussi ce mot, autour de Trump. Ce qui ne va pas avoir que des désagréments pour la pratique du pouvoir, parce qu'on peut penser que quelqu'un comme Mattis, par exemple, à la Défense, va se retrouver avec des interlocuteurs avec lesquels il va pouvoir parler très rapidement et de façon cohérente. Ils ont l'oreille du président, ils parlent comme le président, ils ne sont pas le président, mais quasiment. Donc ça va être plus facile de discuter avec un Pompeo ou avec un Bolton, alors que le président, on le sait, ne va pas forcément dans le fond des dossiers. Donc il fallait des techniciens à côté de lui, ils y sont maintenant.
Le message, Philippe Golub, c'est celui d'un durcissement, d'une reprise en main, voilà, d'un cabinet qui lui ressemble, quoi, tout simplement.
Alors, au plan international, c'est tout à fait clair. Je pense que c'est lisible, contrairement à beaucoup de ce que Trump avait fait auparavant, qui semblait de l'extérieur de l'Europe assez illisible. Là, on est dans une très grande lisibilité de la politique internationale. C'est un cabinet composé de pour aller pour le dire de façon un peu simpliste peut-être de va-t-en-guerre, de Pompeo est un, et ce ne sont pas des conservateurs, ce sont des ultra conservateurs,
des gens qui avaient eu des responsabilités sous George Bush fils déjà.
Oui, absolument, ils sont tous portés sur la chose militaire, c'est-à-dire qu'ils sont ce sont tous des à la fois des praticiens du pouvoir dans les administrations précédentes, mais tous portés sur l'utilisation de la force, non pas comme ultima ratio des relations internationales, mais comme prima ratio, c'est-à-dire de tout de suite utiliser l'avantage comparatif stratégique américain dans le monde comme moyen de résolution des problèmes au fond politique. On est dans un cabinet où les partisans de la guerre, de l'utilisation de la force, disons, de l'utilisation de la force, prédominent actuellement, et ce ne sont pas des incapables, ce sont des gens qui ont cette pratique-là. Bolton n'est peut-être pas un néoconservateur, mais c'est un ultranationaliste qui veut que la puissance américaine se déploie dans le monde, et en particulier, on va le voir, me semble-t-il, avec grand danger, dans un avenir assez proche, sans doute en Iran.
C'est juste un mot, si vous me permettez, on peut préciser quand même, avec McMaster, on avait aussi quelqu'un qui faisait de l'usage de la force une préconisation première. Donc c'était aussi, on avait quand même cette ligne qui apparaissait assez lisiblement dans la politique de Trump.
Est-ce que ça veut dire qu'on est un peu en train de sortir, alors d'une manière, on va dire, militarisée, de l'isolationnisme que revendiquait Donald Trump au début de son mandat, ou non?
Alors pas du tout, je crois qu'au contraire, on est dans l'affirmation de America First qu'il nous a vendu depuis qu'il est au pouvoir. Je crois qu'en réalité Donald Trump continue à faire ce qu'il fait, c'est une politique d'incertitude, c'est je manie à la fois la carotte et le bâton. Donc par exemple, on va prendre la Corée du Nord où il va aller discuter avec Kim Jong-un fin mai, mais en même temps, vu l'effectif qui se trouve aujourd'hui à côté de lui, le message qui est envoyé à Kim Jong-un, c'est vous savez, si je me suis fait avoir, si vous avez juste gagner du temps comme votre père l'avait fait en 94 avec Clinton, je peux vous assurer que ça ne va pas se passer de la même façon. Cette fois-ci, on réagira très vite. Et la deuxième, c'est effectivement l'envoi qui est fait à l'Iran. Je crois qu'effectivement, dès le mois de mai, on va avoir une vraie question qui va se poser, savoir si ce que va décider Donald Trump vis-à-vis du nucléaire en Iran. Et on a là aussi une préconisation très forte pour l'usage de la force et pour resserrer les vis dans ses équipes.
Philippe Golub, vous avez commencé à le dire, Iran, Corée, c'est deux pays qui reçoivent des messages assez directs, en fait, avec ces nominations.
Oui, tout à fait.
Corée
du Nord, c'est devenu un peu plus ambigu du fait de la rencontre qui va avoir lieu. Mais la Corée est une proposition beaucoup
Donald
plus difficile.
Donald Trump est impatient de rencontrer Kim Jong-un.
Kim Jong-un qui était en Chine hier, qui était à Beijing hier. C'est plus compliqué, la Corée. C'est très compliqué, la Corée. Guerre en Corée, c'est des centaines de milliers de morts, n'est-ce pas? Tout de suite, et la possibilité, sinon la probabilité, d'un affrontement nucléaire. L'Iran devient une cible de choix. Une cible de choix parce que l'Iran est d'abord plus faible, ne possède pas l'arme nucléaire, et est entouré d'ennemis régionaux, et donc, que ce soit Israël ou l'Arabie Saoudite. Je voudrais dire une chose quand même pour revenir.
Oui.
La question de l'isolationnisme. L'administration n'est pas isolationniste dans le sens des non-interventionnistes des années 30. Ce sont des ultranationalistes interventionnistes, mais ce ne sont pas des internationalistes dans le sens qu'ils veulent construire des relations multilatérales et la coopération. Dans ce sens-là, ils ne sont pas vraiment isolationnistes non plus.
Je suis d'accord.
Messieurs, je vais vous emmener sur un terrain un petit peu glissant, il faut quand même en parler, c'est de la psychologie. Quelle qualité faut-il pour travailler avec Donald Trump, Jean-Luc Brana?
Il faut être loyal. Il faut savoir mettre ses prétentions dans sa poche, effectivement, coller à l'image du chef. Alors, on va prendre l'exemple de Pompeo. On en discutait tout à l'heure avec Philippe Golub un petit peu dehors, mais c'est vrai que Pompeo était, durant la campagne, quelqu'un qui était opposé à Donald Trump. On l'a oublié aujourd'hui. Il était proche de Marco Rubio. Aujourd'hui, il n'y a plus un papier de cigarette entre les pensées de l'un et les pensées de l'autre. L'un a épousé l'autre totalement. Évidemment, c'est pas Trump qui a épousé Pompeo. C'est dans l'autre sens que ça s'est fait. Voilà la qualité pour pouvoir être reconnu par Trump aujourd'hui, car en réalité, réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est cet homme-là est un PDG dans sa tête. Et il l'avait annoncé dès le départ. Hein, il nous l'avait dit, quand il faudra changer les chefs de service, je le ferai, j'appuierai sur le bouton et ils seront virés. Eh bien, on a vu que ça marche. Et c'est effectivement comme ça que ça se passe. Et quand il estime qu'il n'y a plus suffisamment d'efficacité avec la personne sur un poste donné, eh bien, il le change.
Une adaptabilité importante, c'est une des qualités qu'il faut pour travailler avec Donald Trump, Philippe Golub.
Il faut, oui,
une plasticité idéologique peut-être.
Non, ils sont là, dans le cabinet actuel, ils sont plutôt, ils se moulent dans l'idéologie générale de Trump. Ils ont, là, il n'y a pas de grande différence en fait. Sans doute, certains de ses conseillers sont plus sophistiqués que lui. C'est tout sur les questions techniques dans les relations internationales, sur les questions économiques internationales, par exemple. Non, mais je pense qu'il faut noter autre chose, c'est que Trump aime, et ça va avec la militarisation générale de la politique extérieure américaine, Trump se veut le représentant d'une certaine forme de virilité américaine, un vulgaire, hein, mais une virilité américaine, un peu à la Theodore Roosevelt, je suis puissant, je suis un homme, je suis capable de faire la guerre, je suis pour les armes.
Il l'avait fait lui-même d'ailleurs, Theodore Roosevelt, avec les Rough Riders.
Ah, absolument, exactement. Et on est là dans, je pense que les hommes autour de lui doivent projeter ça autour de lui, je fais de la psychanalyse un peu sauvage et collective, là, doivent projeter à la fois cette image de la virilité sans mettre en cause celle supposée du président.
Alors, il faut donc penser comme lui, c'est parfois un petit peu difficile, parce que vous le disiez, Jean-Luc Brana, il est un petit peu difficile à suivre sur certains dossiers, notamment la Corée du Nord.
Ah non, j'ai pas dit ça, et je crois même dire le contraire. Je crois que, à titre personnel en tout cas, je trouve qu'il y a une très grande cohérence dans ce que nous fait Trump. En réalité, je trouve qu'il se rend incompréhensible, parce que l'idée, c'est un principe d'incertitude dans lequel il affole complètement les places diplomatiques. Vous savez, places diplomatiques, c'est un courant dans lequel il n'y a pas de vague, tout se passe bien, on discute très longuement. Or, avec Donald Trump, regardez pour Kim Jong-un, la décision a été prise en quelques secondes après qu'on lui a annoncé que Kim Jong-un veut le rencontrer, alors que normalement ça prend des mois, ce genre de décision. Il faut quand même envoyer des émissaires, des ambassadeurs qui pèsent le pour, le contre et discutent de tous les tenants et aboutissants.
C'est de la question logistique aussi, ça va être compliqué aussi, mais bon, allons-y, continuez.
Oui, c'est ça. Et donc ça se fait, ça peut se faire rapidement, donc il y a une intuition, une impulsivité. Ça dépend si vous aimez Trump ou pas, vous mettez le mot que vous voulez, mais en réalité cette rapidité d'exécution qui est propre à Trump, qui est très déstabilisante pour des gens qui ont besoin de construire, ça c'est certain, mais également très déstabilisante parce que ça peut nous amener dans des terrains inconnus dans lesquels une étincelle peut tout faire sauter.
Oui, c'est ça, donc c'est des implications importantes pour la guerre.
Évidemment, donc c'est toujours le danger. Et en réalité, ce principe d'incertitude fonctionne parce que les gens qui sont autour corrige le tir. C'est-à-dire que la peur que ça s'enflamme fait que les places diplomatiques s'adaptent à Donald Trump en réalité. Je prends comme exemple ses premières sorties. Quand il est arrivé en Europe pour la première fois, personne n'a été contre Trump. Et vous vous souvenez de ses déclarations, par exemple G7, dans lequel il y a une déclaration commune à la fin dans laquelle on reconnaît les principes que Trump met en place. C'est-à-dire qu'on détruit complètement la raison de la réunion. Et ça n'a posé de problème à personne au final. On s'adapte pour qu'il n'y ait pas de conflit.
Être imprévisible le met au centre du jeu, Philippe Golub, quelque part.
Oui, l'imprévisibilité, c'était, il faut rappeler que Richard Nixon avait une politique similaire au niveau international. Il appelait ça « the madman theory », ou voulant faire savoir aux autres États, aux autres acteurs du système international, qu'il était lui-même totalement imprévisible potentiellement dans ses réactions, alors qu'il ne l'était pas vraiment. Il était impulsif, c'est vrai. Il était colérique, c'est vrai. Mais la gestion de l'imprévisibilité. Et donc, on n'est pas là dans une nouveauté absolue. Chez Trump, bien sûr, ça, comme dans tout, ça prend des formes exagérées.
Alors, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? On s'imaginait au début du mandat de Donald Trump que, eh bien, il y aurait des gens pour contrôler son impulsivité, des gens qui sont habitués au marais de Washington, comme disait Donald Trump. Est-ce qu'il y a, on parlait même d'adultes qui surveillaient un enfant. Je ne sais plus quel conseiller avait dit ça, représentant républicain avait dit ça. Est-ce qu'il y a toujours des contre-pouvoirs, ou est-ce que cette fois-ci il a fait le ménage, quoi, Jean-Éric Brana?
Alors, d'abord, tomber dans la condescendance. Je crois que ce type de qualifications sont toujours très condescendantes et il faut pas oublier qu'on s'adresse, on parle du président des États-Unis.
Mais c'était un représentant américain.
Je sais bien. Mais je crois qu'il faut faire attention parce que si on veut analyser, en réalité, le système américain est quand même fichement bien foutu. Si on permettait de le dire comme ça, les pouvoirs sont bien partagés. N'oublions pas qu'aux États-Unis, le Congrès a une vraie autorité. C'est le Congrès qui fait la loi, c'est le Congrès qui en dispose, c'est le Congrès qui peut imposer. On l'a vu par exemple fin juillet quand le Congrès impose au président, quasiment à l'unanimité des deux chambres d'ailleurs, des sanctions contre la Russie, en rajoutant une disposition qui interdit au président de revenir dessus. Et le président qui a un contre-pouvoir, qui est le veto, ne peut pas le mettre parce que la majorité est vraiment contre lui. Ce qui se passe en revanche, c'est qu'on s'est rendu compte que le parti républicain s'est rangé derrière Donald Trump. Et ça change bien des choses. En tout cas, jusqu'au midterms, tant qu'il n'y a pas une majorité qui change, ça, c'était difficile à voir venir, tellement ils étaient contre lui. Il y avait même eu un mouvement chez les Républicains qui s'appelait Never Trump, jamais Trump. Et malgré ce jamais Trump, ils se sont tous mis derrière, avec cette parole de Paul Ryan au moment où il redevient Speaker à la Chambre, qui, ce jour-là, dans son discours, dit « Nous avons entendu le message des urnes et nous rangerons derrière le président ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors maintenant, on arrive dans cette situation très difficile pour les Républicains et pour Donald Trump. C'est que les midterms s'annoncent assez difficiles pour ce parti, en tout cas pour ce qui concerne la Chambre, pour le Sénat.
Au mois de novembre.
C'est une autre histoire, oui, début novembre. Et à ce moment-là, effectivement, l'équilibre devrait être rétabli entre le Congrès et la Maison Blanche, et on va s'apercevoir qu'effectivement, ce Congrès a réellement un pouvoir aux États-Unis.
Il faut quand même noter, c'est tout à fait exact ce que vous venez de dire. Il reste qu'il y a une très grande autonomie de la Maison Blanche et de l'exécutif dans la gestion et la décision en politique internationale.
Ah oui.
Et c'est précisément parce que il devrait y avoir effectivement un rééquilibrage en novembre qu'il faut peut-être aussi s'attendre à une utilisation de la part de l'exécutif et de la Maison Blanche de ses prérogatives au niveau international.
Le Parti républicain, je voulais vous poser la question, Philippe Goloub, il s'est rangé derrière Donald Trump ou il est dans une expectative prudente avant les midterms?
Non, il y a eu effectivement des dissensions assez importantes juste après les élections.
L'Obamacare, par exemple, il y a quand même des républicains qui ont fait basculer la décision.
Oui, tout à fait. Il reste une frange du Parti républicain qui pourrait être qualifiée de plutôt centriste, mais le Parti républicain dans son ensemble a basculé de plus en plus au cours des 10, 15, 20 dernières années vers un conservatisme de plus en plus radical. C'est curieux de dire ça, du conservatisme radical, mais c'est une forme de radicalisme de droite sur tous les plans idéologiques. Et donc, on est là dans des nuances de gris le parti n'est pas totalement rangé derrière Trump, mais sans Trump, le parti n'existe pas aujourd'hui.
Qui sera on est presque au terme de cette émission, et c'est l'heure des paris. Là encore, je vous emmène sur un terrain glissant, Jean-Éric Brana. Qui sera le prochain à prendre la porte?
À prendre la porte? Oh, on en a beaucoup. David Chalkin, pour moi, c'est le ministre des Anciens Combattants. On a déjà le nom du remplaçant, donc généralement, ça veut dire des choses. Et puis en plus, il y a à peine une semaine, Sarah Sanders a dit que c'était quelqu'un de formidable et qui faisait une grande politique. Et généralement, ça veut dire qu'il va être viré dans la semaine.
Donc on doit s'attendre encore à des changements, des licenciements via Twitter, Philippe Goloub?
C'est tout à fait possible. On ne sait pas si les figures très importantes de l'administration resteront ou quitteront. Il y a deux grandes questions. La question autour du général Mattis, le ministre de la Défense, et une question aussi autour du chef du cabinet de la Maison Blanche, le chief of staff de la Maison Blanche, un autre général. Donc il reste quelques questions, mais pour l'essentiel, son cabinet resserré est assez clairement constitué.
Donc ce que vous nous disiez, Jean-Éric Brana, c'est que finalement, il y a peu de risques que Donald Trump finisse par avoir des difficultés à trouver des collaborateurs. Ça, il y en aura toujours pour...
Oh, je crois que pour travailler à la Maison Blanche, vous avez toujours des gens qui sont prêts à y aller. Non, il n'aura pas de mal à trouver des collaborateurs, bien évidemment.
Merci beaucoup, Jean-Éric Brana. Merci beaucoup à vous, Philippe Goloub, également. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet www.rfi.fr et sur les plateformes mobiles avec notamment l'application RFI Pure Radio, rubrique magazine. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, nous y sommes comme Donald Trump. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.